Voilà, je vous propose de commencer par partager un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. Je voudrais parler ce soir de la manifestation de l'amour de Jésus pour nous, la manifestation de l'amour de Jésus pour chacun de nous. Ces derniers temps, alors que l'amour de Jésus est vraiment tout le temps autour de nous, il nous environne en permanence, mais nous n'y prenons pas garde, nous n'y faisons pas attention. Et ces derniers temps, j'ai été touché par la manifestation de l'amour de Jésus dans ma vie. Je l'ai perçu, peut-être que j'étais plus sensible ou j'étais plus disposé à ce moment-là, mais je l'ai perçu plus intensément que je ne l'avais jamais perçu. Et je crois que c'est important de considérer, de comprendre, d'avoir conscience des manifestations de l'amour de Jésus dans notre vie. À bien des égards, c'est important de le comprendre. La dernière fois que j'ai ressenti la manifestation de son amour, c'est pas plus tard que samedi, alors que nous étions présents tous ici pour ce concert au cœur de la louange. Je ne sais pas si vous avez ressenti la même chose que moi, mais très fortement, j'ai senti, bien sûr, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous, mais la manifestation de son amour. Elle était partout. Je l'ai vue partout. Je l'ai vue dans le travail que les organisateurs ont réalisé. On ne peut pas organiser une manifestation de ce type si on n'a pas l'amour de Jésus dans son cœur. La façon dont les musiciens ont joué, l'amour de Jésus était en eux. La façon dont les chanteurs ont chanté, ça dégageait l'amour de Jésus. Et tout le reste, le service de ménage, le service de sécurité, le service technique, le service de restauration, les témoignages, les pasteurs, l'amour de Jésus était partout. Et l'amour de Jésus s'est manifesté. Je l'ai ressenti, j'ai ressenti tout ça comme une manifestation de l'amour de Jésus envers moi, mais j'ai ressenti aussi qu'il manifestait son amour pour nous tous, pour chacun de nous. C'est le message central de Jésus. L'amour, c'est le message central de son œuvre. C'est le message central de la Bible. Dieu est amour. La parole nous dit que Dieu est amour. Et Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est venu sur terre. Il accomplit tellement de choses. Mais avant les miracles, avant les prodiges, avant les enseignements, avant les paraboles, avant la croix, il y a l'amour de Jésus. Avant tout cela, il y a l'amour de Jésus. Tout découle de l'amour de Jésus. Tout ce qu'a fait Jésus, tout ce qu'il a manifesté, tout ce qu'il manifeste encore aujourd'hui, c'est à cause de son amour, à cause de son amour pour chacun de nous. Décrire l'amour de Jésus, je crois que c'est impossible. J'ai essayé de réfléchir à des adjectifs. Je me suis arrêté à peu près à 25. Je crois qu'il y en a une infinité. On pourrait donner une infinité d'adjectifs à l'amour de Jésus. Je crois qu'on pourrait écrire des adjectifs sur tous les murs de l'Église. On manquerait de place. Tellement l'amour de Jésus est grand, tellement il est considérable, tellement il dépasse notre intelligence. La parole dit que l'amour de Jésus dépasse notre connaissance. C'est impossible pour nous de bien mesurer, de bien comprendre la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur de cet amour. Alors j'ai réfléchi, comment pourrait-on décrire l'amour de Jésus? J'ai passé du temps et je ne sais pas si j'ai trouvé, mais il y a un mot qui m'a parlé. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. tout est accompli. Et j'ai trouvé que cet adjectif, accompli, résume, je ne sais pas s'il le résume bien, mais en tout cas, il résume une partie de ce qu'est l'amour de Jésus. L'amour de Jésus, il est accompli. Jésus est mort à la croix. Il a accompli la volonté de Dieu. Il a accompli le plan de Dieu pour les hommes. Il l'a fait par amour. Il l'a fait par son amour. Son amour est accompli. Ça veut dire quelque part qu'il a achevé sa mission. Son amour est achevé. Il est achevé, mais il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Achevé dans le sens où il a tout donné. Il a réalisé ce que le Père attendait de lui. Il l'a fait par amour. Il s'est donné entièrement pour nous. Mais ce n'est pas fini. Il n'en a pas fini avec nous. Je voudrais qu'on partage un point très important en rapport avec le texte qu'on a lu en introduction. C'est que l'amour de Jésus nous a été manifesté à toutes et tous ici présents. Toutes et tous. J'inclus les enfants. Toutes et tous. Nous avons reçu la manifestation de l'amour de Jésus dans notre vie un jour ou l'autre. Et cet amour qui est à l'origine et l'amour de Jésus, est aujourd'hui aussi le nôtre. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu cet amour. Il nous l'a communiqué. C'est pour cela qu'il nous dit dans le texte qu'on a lu, aimez, bénissez, faites du bien, priez, soyez parfaits. Il nous dit tout cela parce qu'il sait que nous avons reçu son amour et nous avons reçu son Saint-Esprit. Et nous sommes donc capables, par la puissance de son Saint-Esprit, nous sommes donc capables d'aimer comme lui aime. Et son amour n'a pas de fin. Et parce que son amour nous a été communiqué, parce qu'il nous a communiqué son amour à travers nous, aujourd'hui encore, il veut que cet amour soit communiqué, que cet amour soit manifesté auprès d'autres, auprès de beaucoup, beaucoup d'autres. Donc voilà ce que je voudrais rappeler ce soir, ce qu'est la manifestation de Jésus dans nos vies, parce que c'est bon de se le rappeler, c'est bon de se le rappeler parce que ça nous encourage à persévérer. C'est bon de se le rappeler parce que ça nous encourage aussi à lui exprimer notre gratitude. Et c'est bon de nous le rappeler aussi parce que ça nous rend conscient, ça nous rend mieux conscient et plus conscient de ce qu'est l'amour de Jésus, de ce qu'est la manifestation de l'amour de Jésus dans nos vies. Amen. Alors, je vous propose de partager cette manifestation de l'amour de Jésus auprès de nous et de le faire au travers de l'évangile de Matthieu. En particulier. Premièrement, son amour se manifeste par sa venue. Jésus est venu. La première manifestation de l'amour de Jésus, c'est sa venue. C'est vrai dans les Écritures, c'est vrai dans nos vies. On peut le voir dans Matthieu, chapitre 3, verset 13. Matthieu 3, 13. Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean. Jésus n'a pas encore commencé son ministère. Il est pourtant fils de Dieu. Et il vient jusqu'à Jean-Baptiste. Il part de la Galilée et il va jusqu'au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Il vient à Jean-Baptiste et il vient humblement. Jean-Baptiste même ne voudra pas le baptiser. Il dira, Seigneur, je ne suis pas digne de le faire. Et c'est vrai quelque part. Mais Jésus est venu humblement. Et il est venu jusqu'à Jean-Baptiste, comme il viendra ensuite auprès de Pierre et André, et Jacques et Jean, et plus tard, il viendra à Matthieu, il viendra à Paul, il viendra à tellement de personnes, il va voyager, il va aller de lieu en lieu, il va aller vers les gens, il va aller rencontrer le peuple d'Israël, et il va envoyer ses disciples. Il est venu jusqu'à nous, il est venu jusqu'à chacun de nous, un jour ou l'autre nous l'avons reçu. Il est venu parce que le Père l'a envoyé. Dieu nous a donné Jésus. Dieu nous a donné Jésus. Jésus a obéi à Dieu. Jésus est venu jusqu'à nous. Et quand je dis que sa venue se manifeste auprès de toutes et tous, je l'ai compris récemment. Je l'ai mieux compris récemment. Je le savais, bien sûr, je l'avais déjà entendu, mais je l'ai encore mieux compris récemment. Il y a quelques jours, j'étais en voiture avec mon fils Victor, que vous connaissez. Alors, quand on monte en voiture, il demande la musique. C'est son réflexe. Il aime écouter la musique quand il est en voiture. Et il a un chanteur favori qui s'appelle Dan Luiten. Donc quand on monte en voiture, Victor demande Dan Luiten. Donc Je mets la musique et puis on chante ensemble. C'est des moments bénis. Et puis, je conduisais. Et en prêtant l'oreille, en fait, je me suis rendu compte qu'il ne chantait pas, mais il priait. Il était en train de prier. Il priait et ça a duré longtemps. Je ne sais pas dire combien de temps, mais ça a duré longtemps. Et j'écoutais. Et en fait, il priait, mais aussi il intercédait. Il citait le nom de personnes, personnes de la famille, des amis, des personnes de l'église. Il parlait de maladie, il parlait de cœur, il parlait de pleurs, il parlait de toutes ces choses-là et il le faisait vraiment avec une ferveur. Et alors que j'étais là dans la voiture avec lui, j'ai senti la présence de Jésus, j'ai senti l'amour de Jésus. Alors j'ai prié avec lui et c'était un moment béni. On était vraiment, j'ai senti une communion, j'ai senti un partage. J'ai senti vraiment l'amour de Jésus se manifester fortement et je me suis dit, mais Seigneur, tu es merveilleux. Tu viens même jusqu'à un enfant de 10 ans, un enfant de 10 ans handicapé. Tu viens jusqu'à lui et tu lui communiques par ton Saint-Esprit, tu lui communiques des sujets de prière et l'enfant prie, il intercède et tu es là et tu l'entends et tu bénis ces moments. J'ai trouvé que c'était un exemple merveilleux de manifestation de l'amour de Jésus. Jésus vient partout, en tout temps, auprès de chacune et chacun de nous. L'amour de Jésus est merveilleux. Deuxième manifestation, c'est son appel. Deuxième manifestation de l'amour de Jésus, c'est son appel. Jésus nous appelle toutes et tous. Jésus nous appelle même d'un double appel. Le premier appel, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 17, c'est un appel à la repentance. Le premier appel de Jésus. C'est l'appel à la repentance. Avant le deuxième appel, qui est, on va le voir, l'appel à le suivre, il y a un premier appel, qui est l'appel à la repentance. Jésus nous appelle toutes et tous à nous repentir. Matthieu 4, verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est le premier appel de Jésus, avant toute chose. Au début de son ministère, Jésus a commencé à prêcher. La première prédication, le premier appel de Jésus, c'est la repentance. C'est la repentance. Il nous appelle, mais il nous appelle à nous repentir. Pourquoi ? Parce que sans repentance, il est impossible de lui plaire. Parce que sans repentance, il n'y a rien après. On ne peut pas juste dire « j'ai rencontré Jésus et je le suis ». Non, il y a des choses à lui abandonner. Nous devons lui donner des choses. Il y a des péchés que nous devons lui remettre. Il y a des péchés que nous ne pouvons pas conserver dans nos vies. Il y a des péchés dont nous devons nous repentir. Et une fois que c'est fait, une fois que ces choses-là sont abandonnées, on peut avancer. Mais on ne peut pas avancer, on ne peut pas rencontrer Jésus, on ne peut pas recevoir Jésus et juste le suivre sans lui avoir abandonné nos péchés, sans nous être repentis. Parce que le Saint-Esprit de Jésus ne cohabitera pas dans nos vies avec le péché. C'est faux. Dans ce monde, on voudrait nous faire croire qu'il y a deux chemin, qu'il y en a même un troisième, le bien, le mal, et puis un troisième chemin qui est là, qui est un peu entre les deux. Mais c'est faux, c'est faux. Si vous croyez cela, vous croyez quelque chose de faux. Il n'y a que deux voies, la bonne et la mauvaise, Jésus et le monde. Nous devons tous nous repentir, nous sommes tous appelés à nous repentir. Vous connaissez, dans le livre de l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit aux églises, et l'Esprit appelle les églises, et Jésus lance un appel aux sept églises, et le premier appel, il est pour l'église d'Éphèse. Le premier appel est pour l'église d'Éphèse. C'est dans Apocalypse, chapitre 2, versets 4 et 5. Et voilà ce que l'Esprit dit à l'église d'Éphèse. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Le premier appel de Jésus, c'est la repentance. Jésus s'adresse aux églises de la fin des temps. Et le premier appel à l'église d'Éphèse, c'est l'appel à la repentance. Repentez-vous. Son amour est là. Son amour est venu jusqu'à nous. Et il va nous appeler. Mais il va nous appeler d'abord à la repentance. Le deuxième appel, c'est l'appel à le suivre. Matthieu chapitre 4, verset 19 et verset 22. Le premier appel, la repentance. Le deuxième appel, appel à le suivre. Matthieu chapitre 4, verset 19. Il leur dit, à Pierre et à André, Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et Matthieu 4, verset 22, il les appela, Jacques et Jean, il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Après la repentance, il y a un appel à le suivre. Il y a un appel à suivre Jésus. Après la repentance, suivons-le. Et quand nous sommes prêts à le suivre, il nous invite à laisser ces choses qui sont les priorités de nos vies. Ici, pour Pierre, André, Jacques et Jean, c'est leur barque, c'est leur filet de pêche, c'est-à-dire leur profession. Même plus que ça, c'est leur gagne-pain, c'est ce qui leur permet de vivre. C'est aussi leur famille, c'est aussi leur lien social. Et pour Jacques et Jean, ils vont même abandonner leur père. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour suivre Jésus, nous devons tout abandonner. Nous ne pouvons pas suivre Jésus si nous conservons le même mode de vie, si nous conservons la même façon de vivre, la même, j'allais dire, vaine façon de vivre. Ça ne marche pas. Suivre Jésus, c'est mettre Jésus en premier et le reste derrière. C'est ça, suivre Jésus. Quand il nous appelle à le suivre, il nous dit, je veux être au centre de votre vie. Mets-moi au centre de ta vie. Mets-moi à la première place. Fais de moi le numéro un dans ta vie. Le reste n'est pas forcément mauvais. Ton travail, ta famille, tes parents. Mais c'est après tout ça. C'est après. Troisièmement, son amour se manifeste par un repos. Par un repos et une paix que lui seul peut donner. Matthieu, chapitre 11, versets 28 et 30. Matthieu, chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il est venu à toi, et tu l'as suivi, tu as accepté de le suivre après t'être repenti. Et désormais tu le suis, tu marches avec lui, et il va te conduire vers sa paix, et il va te conduire vers son repos, ce repos que lui seul peut donner. Quand on vient à lui, on vient à lui avec un passé, on vient à lui avec une vie, parfois chargée, des choses qu'on n'a pas su régler. Dans notre cœur, on est prêt à le suivre, on s'est repenti de nos mauvaises actions, nos mauvais comportements, on s'est repenti de tout ça, on dit « Seigneur, oui, je veux te suivre, mais il y a encore des choses qui sont là. Il peut encore y avoir des choses qui sont là. » Il nous invite à les lui remettre. « Remets-moi tes fardeaux. Remets-moi ta tristesse. Remets-moi ta maladie. Remets-moi tes difficultés. Remets-moi tout ça. » C'est ce qu'il nous dit. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez-moi tout cela. Déposez-le au pied de ma croix. Et je vous soulagerai. Je prendrai vos fardeaux. Je vous donnerai du repos. La quatrième manifestation, c'est que son amour se manifeste par la guérison. L'amour de Jésus se manifeste par la guérison. C'est quelque chose de merveilleux. Dans Matthieu chapitre 14, versets 13 et 14, il est dit, Matthieu 14, versets 13 et 14, « À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle et il guérit les malades. » Jésus a été ému de compassion. Il a été ému de compassion. On retrouve cette expression, je crois, à quatre ou cinq reprises. Je crois que c'est quatre reprises dans l'évangile de Matthieu. Jésus est ému de compassion. Ça veut dire quoi ? Il est pris. La compassion le prend dans son corps. Elle le saisit. Elle le prend dans ses tripes. Et il ressent un tel amour, une telle compassion pour la foule qui est là. C'est physique, être ému de compassion, c'est être pris dans son corps, être tiraillé dans son corps, de voir cette foule après lui. La foule était là et lui, il était parti à l'écart dans un lieu désert, certainement pour prier, certainement pour être seul avec le Père. Et la foule l'a su. Quand la foule l'a su, elle est sortie de la ville et elle l'a suivi à pied. C'est-à-dire avec un effort, avec une envie. La foule démontrait une envie. Elle voulait aller vers Jésus. Elle le suivait. Alors il est sorti de la barque. Et il a vu la foule. Et là, il a été saisi. Il a été pris, il a été ému de compassion. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a guéri les malades. Il a guéri les malades. Laissez-moi vous dire que nous sommes une grande foule. Nous tous. Le peuple de Dieu est une grande foule. Nous sommes une grande foule. Et quand nous cherchons Jésus, quand nous sortons des villes pour chercher Jésus, quand nous sortons de chez nous pour chercher Jésus, il le voit, même s'il est dans sa barque, même s'il est à l'écart. Parce que Jésus, l'Esprit, le Saint-Esprit est partout, mais le Saint-Esprit peut aussi, à certains moments, être perçu par nous comme éloigné de nous. On ne sent pas sa présence. Je disais tout à l'heure qu'on ne perçoit pas tout le temps l'amour de Jésus comme il faudrait. La manifestation de son amour, elle n'est pas toujours évidente pour nous parce qu'on n'y prête pas suffisamment attention. Alors il nous semblerait qu'il est loin. Mais quand nous le cherchons, il le sait. Quand la foule le cherche, il le sait, il le voit et il est ému de compassion. Quand nous étions rassemblés samedi ici, nous le cherchions. Nous étions là pour lui. La foule était rassemblée ici. Nous étions ici sur nos pieds pour Jésus. On n'est pas venu chacun pour nous-mêmes. On n'est pas venu pour les autres. On est venu pour Jésus. Jésus le sait. Jésus l'a vu. Et Jésus est venu. Vous avez senti la présence du Saint-Esprit samedi? Jésus est venu samedi. Jésus était là. Il a manifesté son amour et il a guéri. Samedi, il y a des personnes qui ont été guéries. Il y a eu des guérisons samedi. Il y a des personnes qui sont venues ici dans ce lieu avec des maladies, des personnes qui ont été guéries. Vous le croyez? Moi, je le crois. Jésus nous guérit. Il nous guérit de nos maladies physiques, de nos maladies corporelles, de nos maladies mentales. Il guérit les personnes pour lesquelles nous prions. Il nous guérit même des maladies dont nous n'avons même pas conscience. On a des maladies en nous, on ne le sait pas. Vous êtes allé voir le docteur, il ne l'a pas vu. Ou peut-être vous n'êtes même pas allé voir le docteur, il y a quelque chose qui est en vous, quelque chose qui s'est développé en vous. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas conscience de la maladie que Jésus ne la connaît pas. Jésus connaît toutes nos maladies et il nous guérit. Il nous guérit de ces choses-là. Amen. Rendons-lui grâce pour les miracles que nous n'avons pas vus. Rendons-lui grâce pour les guérisons que nous n'avons pas vues, parce qu'elles sont là, elles existent. Vous le croyez ça? Moi je le crois, vraiment je crois ça. Je crois que Jésus guérit. Je crois que samedi, il était là, il a guéri. Il y a des personnes qui ont donné leur cœur à Jésus. Ce n'est pas une guérison, ça? Ça, c'est une guérison. Il y a des maladies dans ce monde, des maladies spirituelles, des maladies mentales. Venir à Jésus, c'est être guéri d'une maladie mentale. C'est être guéri d'un manque de discernement, c'est être guéri d'un aveuglement, c'est être guéri de tout ça. Spirituellement, c'est ça. Ce sont des guérisons. Quand des âmes viennent à Jésus, ce sont des guérisons. Et samedi, Jésus a guéri. Samedi, Jésus est sorti de la barque. Il a été ému de compassion. Il a été pris dans ses tripes quand il nous a vus là, quand il a entendu les chants, quand il a entendu la musique, quand il a vu l'équipe de ménage qui nettoyait après tout ça. Il a été ému de compassion. Et là, Jésus a béni. Et là, Jésus a guéri. Amen. Cinquièmement, son amour se manifeste par une reconnaissance. Une reconnaissance. Jésus nous manifeste son amour par une reconnaissance. Dans Matthieu, chapitre 25, on ne va pas le lire, mais c'est au verset 14 à 30, Jésus nous donne la parabole des talents. Vous connaissez cette parabole. Il y a trois hommes qui sont là, trois serviteurs. Jésus leur donne 5, 2 et un talent. Et puis, pas Jésus, mais le maître leur donne 5, 2 et un talent. Et puis le maître reviendra plus tard et il réclamera ses talents. Un lui donnera 10 talents, 5 fois 2. L'autre lui donnera 4 talents, 2 fois 2. Et le dernier lui donnera un talent parce qu'il n'a pas fait valoir ce talent, il l'avait enterré. Alors cette parabole, souvent, on la regarde plutôt du côté du mauvais serviteur, celui qui n'a pas travaillé, celui qui n'a pas attendu son maître, celui qui n'a pas persévéré. Et il sera jeté dehors dans les ténèbres. Mais je vous propose de regarder plutôt le verre à moitié plein, ou plutôt aux deux tiers pleins, puisqu'ils étaient trois. Il y en a deux qui ont été bénis. Lorsque le maître est revenu, deux qui ont été bénis parce qu'ils avaient travaillé, parce qu'ils avaient fait valoir ce que le maître leur avait donné. Et alors, parce qu'ils avaient fait cela, parce qu'ils avaient été fidèles, le maître a été reconnaissant. Le maître leur a dit « Entrez dans la joie de votre maître ». Et même, pour celui qui a fait valoir les 5 talents, il y aura une meilleure récompense parce qu'il aura un talent de plus. Le maître va prendre le talent de celui qui n'avait rien fait, il va le donner à celui qui avait fait valoir les 5 talents. Jésus est reconnaissant. Jésus sera reconnaissant quand il va revenir. Juste après cette parabole des talents, au chapitre 25, versets 31 à 46, la parole nous dit que lors de son retour, Jésus reconnaîtra les siens. Il séparera les brebis et les boucs. Il fera un partage. Il reconnaîtra les siens. Il reconnaîtra ceux qui se sont inspirés de son amour pour faire le bien pendant leur vie, qui auront accompli des actes de bienveillance, des actes d'amour. Il les reconnaîtra. Il fera un partage. Il mettra les uns d'un côté, les autres de l'autre. Et pour ceux qui auront été fidèles, la parole dit qu'il leur donnera possession du royaume des cieux. Possession du royaume des cieux. Il va revenir. Il reconnaîtra les siens et par son amour, il nous donnera possession du royaume des cieux. Amen. Jésus donne cette parabole et cette révélation 2 jours avant sa mort, 2 jours avant la Pâque. Dans l'évangile de Matthieu, ça se passe 2 jours avant. Donc, ça fait partie des derniers enseignements qu'il donne. Donc, ce sont des enseignements très importants, très importants. On a vu tout à l'heure que son premier appel, c'est un appel à la repentance. Et donc là, son dernier appel, quasiment son dernier appel, c'est un appel à la fidélité. Quand les deux serviteurs ont remis les talents à leur maître, ils lui ont montré leur fidélité. Pendant son absence, pendant qu'il n'était pas là, ils ont travaillé pour lui. Ils ont été fidèles. Les brebis à qui Jésus donnera possession de son royaume sont ceux qui auront travaillé pour lui alors qu'il n'était pas là. Et alors, comme on a vu tout à l'heure que l'Esprit avait écrit à l'église d'Éphèse un appel à la repentance, toujours dans Apocalypse, au chapitre 3 et au verset 21, l'Esprit va écrire ou va appeler la dernière église qui est celle de Laodicée, et il va lui dire, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. » Il reconnaîtra les siens. Il reconnaîtra les siens par son amour. Il reconnaîtra leur fidélité. Il reconnaîtra leur persévérance. Il reconnaîtra ceux qui ont vaincu, ceux qui sont allés jusqu'au bout et ceux qui ont vaincu. Il les reconnaîtra. Voilà la reconnaissance de Jésus. Vous connaissez dans Matthieu 7 ce que dit Jésus à propos des arbres et de leurs fruits. Il dit, vous reconnaîtrez les arbres à leurs fruits. Vous reconnaîtrez les arbres à leurs fruits. Et il parle de ceux qui auront été méchants, ceux qui auront été mauvais, et qui pourtant auront semblé être des serviteurs de Dieu, et il dira, je ne vous ai jamais connus. Les uns, il les connaîtra, les autres, il ne les connaîtra pas. L'amour de Jésus, c'est un amour formidable, c'est un amour merveilleux, tout ce qu'on veut, mais c'est un amour juste. C'est un amour juste. Jésus reconnaîtra les siens, mais il ne reconnaîtra pas les siens. C'est important de comprendre cette dimension de l'amour de Jésus. C'est important de comprendre cette manifestation de l'amour de Jésus qu'est la reconnaissance. Parce que si nous n'avons pas été fidèles, il ne nous reconnaîtra pas. Et ce sera trop tard. Certains croient qu'on peut rentrer dans le royaume de Dieu en ayant eu une vie comme ci, comme ça avec Jésus. J'ai suivi, mais pas trop. Je me suis repenti, mais pas trop. J'ai écouté la pensée de Dieu, mais pas trop. J'ai fait un peu comme je voulais, en fait. Et je me suis dit, ça va passer, ça va passer. Mais ça passera pas. Ça ne passera pas. Jésus reconnaîtra les siens. C'est écrit. Il partagera les brebis et les boucs. Donc sa justice est parfaite. Et pour ceux qui ont persévéré jusqu'à la fin, il y a une récompense. Il y a une couronne de victoire. Il y a un accès au royaume de Dieu. Il y a un accès à son trône. La parole dit que nous serons assis avec lui sur son trône. Amen. Sixièmement, son amour se manifeste par un accès à la présence du Père. Un accès à la présence du Père. Juste avant de mourir sur la croix, dans le jardin de Gethsémané, Jésus a accepté de faire la volonté de Dieu et de monter sur cette croix. Alors dans Matthieu, chapitre 27, verset 50, il est dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le premier événement qui se produit à la mort de Jésus, c'est le rideau qui se déchire. C'est immédiat. Quand on lit ce passage, on se rend compte que ça se passe instantanément. La première chose que Dieu a fait à la mort de Jésus, c'est déchirer le rideau, déchirer le voile. Dans ma façon de penser, J'ai longtemps cru que c'était un voile, vous savez, un voile très fin, quelque chose de... Un voile, quoi. Un voile comme un voile de mariée, vous savez, là, quelque chose de très fin. Mais en fait, non, le voile, la parole nous dit dans 1 roi que le temple avait une hauteur de 30 coudées. Le temple construit par Salomon avait une hauteur de 30 coudées, c'est-à-dire à peu près 18 mètres. Donc le voile qui était à l'intérieur faisait très certainement une hauteur, peut-être pas de 18 mètres inférieure, mais au moins 10, 12 mètres, peut-être plus. Donc c'était un très grand voile. Et il y a un historien du 1er siècle, un historien juif, qui s'appelle Flavius Joseph, qui a dit que le voile avait une épaisseur de 12 cm. Imaginez un voile d'une épaisseur de 12 cm sur une hauteur de 10 ou 12 mètres se déchirer d'en haut jusqu'en bas. Pas d'en bas jusqu'en haut. C'est pas un homme qui est venu qui a déchiré depuis le bas en remontant vers le haut. Le voile s'est déchiré depuis le haut vers le bas. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le voile, il séparait le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint, seuls les sacrificateurs y avaient accès. Le lieu très saint, seul le souverain sacrificateur y avait accès. Et tous les autres qui n'étaient pas sacrificateurs, ils étaient dehors. Ils étaient sur le parvis ou encore à l'extérieur. Ils n'étaient pas en communication, en lien, en présence directe de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu était avec l'arche dans le lieu très saint. Et en déchirant le voile, Dieu a ouvert l'accès. Par la mort de Jésus à la croix, Dieu a déchiré le voile et il nous a donné accès à sa présence. Voilà pourquoi je dis que la manifestation de l'amour de Jésus pour nous, c'est l'accès qu'il nous donne au Père. Sans cet amour de Jésus, sans cet amour pour monter sur la croix, parce que c'est par amour qu'il est monté sur la croix, c'est par amour pour nous, c'est pas par amour pour lui, par amour pour Dieu, puisqu'il a fait la volonté de Dieu, mais aussi par amour pour nous. Voilà ce qu'a fait Jésus. Le voile déchiré, c'est Jésus. C'est Jésus déchiré sur la croix. Jésus déchiré sur la croix, c'est l'accès au Père. C'est l'accès qui nous est donné au Père. Septième et dernière manifestation, c'est l'alliance, l'union, le mariage. Dans Matthieu 22, Jésus parle en parabole et il nous dit quoi ? Il nous dit que le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous connaissez aussi la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, elles sont invitées à entrer dans une salle de noces. Et alors que nous étions quelques heures avant la croix, Jésus partage la Sainte Cène avec ses disciples, il partage le pain, il partage le vin, il déclare dans Matthieu 26, verset 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Par son sang, par son amour, il a fait alliance avec nous. » La parole dit que l'Église est l'épouse de Jésus. Nous sommes l'épouse de Jésus. Il y a une relation très forte entre nous et Jésus. C'est plus qu'une simple relation, c'est une union. C'est une alliance, c'est un mariage. En France, la durée moyenne d'un mariage, je ne sais pas si vous le savez, c'est à peu près 20 ans. Dans certaines régions, c'est même moins que ça. Et plus on avance, et plus cette durée moyenne diminue d'année en année. Mais l'union, l'alliance que Jésus nous propose, ce n'est pas ça, c'est éternel. Jésus nous aimera toujours. Jésus t'aimait avant ta naissance. Jésus t'a aimé depuis le jour de ta naissance jusqu'à aujourd'hui, même si parfois tu as pensé qu'il ne t'aimait pas parce que tu avais des galères, parce que tu avais des soucis, parce que tu avais des difficultés, des maladies, des décès autour de toi. Mais Jésus t'aime. Il t'aime encore aujourd'hui et il t'aimera toujours. Même quand tu seras mort, il sera là, il sera avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Je ne sais pas où chacun en est dans sa relation avec Jésus. Est-ce qu'il vous a appelé ? Est-ce qu'il est venu jusqu'à vous ? C'est sûr qu'il est venu jusqu'à vous. Si vous entendez ce message, pour vous qui êtes là ou qui écoutez, mais si vous entendez ce message, c'est déjà qu'il est venu jusqu'à vous. Mais après, vous en êtes où ? Il vous a appelé. Est-ce que vous êtes repenti ? Pas repenti. Est-ce que vous êtes prêt à le suivre ? Pas. Est-ce que vous avez fait le ménage dans votre vie ? Est-ce que vous avez goûté à son repos, à sa guérison ? Je ne sais pas où vous en êtes, mais ce que je voulais vous dire ce soir, c'est que la manifestation de son amour, ce sont aussi des choses qui ne sont pas arrivées. C'est la reconnaissance qu'il va nous donner pour la fidélité que nous aurons eue pour lui, la récompense que lui seul peut donner, c'est-à-dire l'accès au royaume. Et c'est aussi cette alliance, ce mariage, cette union, parce qu'il restera avec nous pour toujours. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te rendons grâce pour ton amour, nous te rendons grâce pour cet amour incommensurable, cet amour infini que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cet amour que je reçois par la foi. Merci de m'avoir sauvé de ma perdition. Merci pour la vie éternelle, pour le pardon de mes péchés, pour le pardon de mes iniquités. Merci Seigneur de m'avoir délivré du mal, d'avoir fait de moi une nouvelle personne. Et aujourd'hui, je suis conscient de ton amour pour moi. Je suis conscient de la manifestation de ton amour dans ma vie. J'en suis conscient parce que tu vis en moi. Et je veux répandre cet amour autour de moi. Seigneur, fais de moi un instrument entre tes mains, que je puisse aller vers les autres et manifester ton amour, Seigneur. Quoi que les autres puissent dire de moi, Seigneur, je sais aujourd'hui que j'ai de la valeur à tes yeux. Je sais que tu veux unir ta vie avec la mienne pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus, pour ton amour. Merci pour ta grâce. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, à toi soit l'adoration de nos cœurs pour toujours, Jésus. Amen.